présente Collection privée de Daniel Steele. Lu par Gaël Biodano. À mes enfants adorés. Béatrix, Trevor, Todd, Nick, Samantha, Victoria, Vanessa, Max et Zara. Puissiez-vous être aimé à tout âge, courageux tout au long de votre vie, honnête et indulgent envers les autres autant qu'envers vous-même. Que votre vie soit emplie de joie, de bonheur et de bénédiction. Sachez toujours que je vous aime. Maman. Daniel Steele. Les bienfaits accordés à un homme profitent au monde entier. Mary Baker Eddy. Chapitre 1. C'était l'une de ces journées de janvier à New York qui vous donne l'impression que l'hiver ne finira jamais. Depuis novembre, les chutes de neige battaient tous les records. Ce matin-là, il avait neigé pour la deuxième fois de la semaine et à présent, le grésil tourbillonnait sous un vent glacial. Les gens sur les trottoirs dérapaient sur les plaques de verglas, leurs visages grimaçants, fouettés par une bise impitoyable. Hal Baker les observait depuis sa fenêtre et se félicita d'être bien à l'abri dans son bureau de la Metropolitan Bank sur Park Avenue. Un peu plus de 3 ans auparavant, quand un ouragan d'une force inimaginable avait dévasté la ville, l'agence avait failli être privée d'électricité. Située à quelques pâtés de maisons au nord de la zone inondée, elle avait continué de fonctionner et de servir ses clients, allant même jusqu'à mettre à disposition des victimes des intempéries des plateaux de sandwichs et de café. Hal était responsable de la salle des coffres, un poste que ses collègues trouvaient ennuyeux, mais que lui-même avait toujours apprécié. Il aimait rencontrer les clients âgés qui venaient examiner leurs biens, vérifier leur certificat d'action ou encore déposer un nouveau testament dans leur coffre. Il bavardait avec eux s'ils en avaient envie, ce qui était souvent le cas. Ou bien il les laissait seuls, si telle était leur volonté. Il connaissait de vue la plupart des clients de la banque, en saluait un certain nombre par leur nom et devinait même leurs attentes. Il aimait aussi faire la connaissance des plus jeunes, particulièrement ceux qui n'avaient jamais eu de coffre auparavant. Il leur expliquait l'intérêt d'y déposer leurs documents et leurs possessions de valeur, les appartements n'étant bien souvent pas suffisamment protégés. Hal prenait son travail au sérieux. À 60 ans, il n'était plus qu'à 5 ans de la retraite et n'avait plus d'ambition dévorante. Il était marié, avait 2 grands-enfants et la gestion du service des coffres lui convenait très bien. Il aimait le contact humain. Il travaillait dans cette agence depuis 28 ans, après avoir passé 10 ans dans une autre agence de la métropolitaine. Il espérait finir sa carrière à ce poste. La chambre forte représentait pour lui une grande responsabilité. Elle contenait les biens les plus précieux de leur clientèle, et parfois aussi de sombres secrets auxquels personne n'avait accès, à l'exception des locataires des coffres. La banque était située dans les East 30s de Park Avenue. Des immeubles de bureaux avaient peu à peu envahi le quartier de Murray Hill, autrefois élégant et résidentiel. La clientèle était composée d'une part de personnes travaillant dans le secteur, d'autre part de personnes âgées, souvent plus fortunées, qui résidait là depuis longtemps. Aujourd'hui, cependant, aucun de ses clients ne s'était aventuré dehors. Le grésil rendait les rues trop glissantes. Par conséquent, Hal avait tout loisir de traiter les dossiers qui s'amassaient sur son bureau depuis les vacances. Il avait 3 affaires urgentes à traiter. Tout d'abord, 2 petits coffres dont la location n'avait pas été réglée depuis exactement 13 mois. Les clients n'avaient pas répondu aux lettres recommandées qu'il leur avait envoyées. Or, 1 année et 1 mois s'étant écoulés sans qu'aucun paiement ait été enregistré, Hal pouvait à présent faire appel à un serrurier pour ouvrir les coffres. Il s'attendait à ce que ces derniers soient vides. En effet, l'absence de paiement signifiait généralement que le coffre était abandonné. D'ordinaire, les clients ne prenaient pas la peine d'avertir la banque qu'ils souhaitaient se passer de ce service. Ils oubliaient de le faire ou bien ils s'en moquaient. Ils cessaient simplement de payer et se contentait de jeter les clés. Si les coffres étaient vides, Hall les attribuait aux deux premières personnes inscrites sur la liste d'attente, laquelle était assez longue. Certes, il était frustrant de devoir attendre 13 mois avant de pouvoir récupérer un coffre, mais c'était la procédure légale pour toutes les banques de New York. Le troisième coffre dont il projetait de s'occuper ce jour-là était un cas un peu à part. Il avait vu la cliente quelquefois au fil des ans et il s'en souvenait parfaitement. C'était une femme d'un certain âge, très distinguée. Bien qu'extrêmement polie, elle ne bavardait jamais avec lui. Cela faisait 5 ans qu'il ne l'avait pas vue. Les versements avaient cessé 3 ans et 1 mois auparavant. Au bout d'un an, Hall avait envoyé la traditionnelle lettre recommandée, puis il avait attendu que le mois supplémentaire soit écoulé pour faire ouvrir le coffre en présence d'un notaire. C'était l'un des 5 plus grands coffres de l'agence. Il avait soigneusement inventorié son contenu sous les yeux de l'homme de loi. Il s'y trouvait plusieurs dossiers cartonnés sur lesquels figurait l'écriture nette de la propriétaire. Ceci contenait des photographies, mais aussi des papiers et des documents, parmi lesquels des passeports américains périmés et des passeports italiens délivrés à Rome. Il y avait aussi 2 épaisses liasses de lettres. L'une, entourée d'un vieux ruban bleu fané, rassemblait des missives en italien, dans une écriture de style démodé. Les autres lettres, liées par un ruban rose, étaient en anglais, et l'écriture était clairement féminine. Le coffre recelait enfin 22 boîtes à bijoux en cuir, dont la plupart n'accueillaient qu'un seul bijou. Hall ne les avait pas examinées de très près, et il n'était pas expert. Mais il était évident que les pièces étaient de grande valeur. La liste qu'il avait établie comprenait une bague en diamant, un bracelet, un collier, une broche. Il ne donnait pas plus de détails. Cela ne faisait pas partie de son travail. Hall n'avait pas trouvé de testament dans les documents. La vieille dame qui avait loué le coffre pendant 22 ans était-elle décédée? Hall n'avait aucune idée de ce qui lui était arrivé. Comme l'exigeait la loi, il avait attendu 2 ans après l'ouverture du coffre, mais aucune nouvelle de la cliente ne lui était parvenue. À présent, sa tâche était d'informer le tribunal des successions, la Surrogate Court de New York, de l'existence du coffre abandonné et de l'absence de testament, et d'en transmettre le contenu à leur service. Ceci devrait d'abord établir que la locataire était décédée. En l'absence de testament ou d'un parent proche, il ferait passer une annonce dans les journaux, invitant les éventuels héritiers à se faire connaître et à réclamer les biens. Si personne ne se présentait au cours du mois suivant l'annonce, le tribunal procéderait à la vente des biens. Les bénéfices seraient reversés à l'État de New York. Les papiers et documents devraient être conservés 7 années de plus, au cas où un parent viendrait à les réclamer. Les lois concernant les possessions des personnes décédées qui ne laissaient pas de testament étaient très strictes, et Hall suivait scrupuleusement les procédures. Il allait maintenant passer à la phase 2 de son action. Informer la Surrogate Court de l'existence du coffre abandonné. La vieille dame aurait eu 92 ans aujourd'hui et il était donc fort probable qu'elle ne soit plus en vie. Hall avait la conviction que les bijoux qu'il avait inventoriés avaient une valeur considérable. Si Marguerite Wallace Pearson di San Pignelli, tel était le nom de la dame, était effectivement décédée et si aucun héritier ne se présentait, il reviendrait à la Surrogate Court d'engager un expert pour en faire une estimation, puis de les vendre aux enchères au profit de l'État. Hall appela tout d'abord le serrurier pour qu'il ouvre les 2 petits coffres, puis le tribunal des successions pour leur demander d'envoyer quelqu'un afin d'examiner avec lui le contenu du grand coffre. Il n'arriverait pas immédiatement, songea-t-il. Ses services manquaient de personnel. Ils étaient débordés en permanence. Il était déjà 11 heures. Quand Jane Willoughby lui répondit au téléphone. Jane était étudiante en droit et effectuait un stage d'un trimestre au tribunal successoral. Elle devait obtenir son diplôme de la faculté de droit de Columbia en juin, puis passerait l'examen du barreau au cours de l'été. Ce stage au tribunal des successions n'était pas celui qu'elle convoitait, mais c'était le seul qu'elle avait trouvé.